quand même se demander pourquoi, hein, les gens oublient toujours de se poser la question pourquoi.
Remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En soi, vous êtes une sorte de provocateur.
Question de point de vue, l'émission qui traite de la contre-culture, des alternatives, des transformations sociétales. Sur Radio Pulse, le lundi soir, entre 20h et 21h.
La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Bonjour à tous et bienvenue dans Question de point de vue, l'émission qui parle de contre-culture, d'alternatives et tout simplement de ces choses du quotidien sous des regards auxquels on ne pense pas. Et pour cette thématique mensuelle du mois de novembre, nous allons parler d'éducation populaire, notamment avec le début de nos premiers travaux sur ce documentaire radio-vidéo qu'on est en train de réaliser avec Simon sur la thématique de qu'est-ce qu'est l'éducation populaire, qu'on a décidé de réaliser sous la forme au final d'un travail de recherche comme un travail de recherche qu'on pourrait faire en sociologie, et de façon un peu divertissante quand même, parce que le but du jeu, c'est pas de vous raconter une thèse à la radio. Et dans ce cadre-là, on a commencé à faire des entretiens exploratoires pour un peu définir ce qu'est donc l'éducation populaire, et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu rencontrer Noémie par le biais d'amis, et elle est en train de réaliser justement des sessions de formation aux conférences gesticulées. Et on vous invite chaudement donc du coup à vous renseigner sur cette question-là, puisque du coup, il y aura des sessions en 2020 donc de conférences gesticulées qui seront animées du coup par Noémie, et qui auront lieu à la Menuiserie. Donc il y aura 4 week-ends que vous pourrez payer bien évidemment séparément, qui débuteront à partir de février de cette année, et il reste de la place, donc du coup, auditeurs, auditrices, si vous êtes intéressés, vous pouvez tout simplement nous envoyer un message sur QDPV qu'on lui relayera, donc du coup, via son mail à elle. Donc je rappelle le mail de Question de point de vue, donc c'est qdpv.radio@gmail.com. Et puis bien évidemment, on va relayer l'information sur nos différents réseaux, donc sur le site de QDA, donc de Question d'altérité, www.qda-association.fr. Et sur notre page Facebook, mail qda.association@gmail.com, etc., etc. Donc on attend du coup vos retours en commentaire, en message, même via le mail de Radio Pulse. Bref, toutes les personnes qui pourraient être intéressées par l'idée de se former à la conférence gesticulée, c'est en 2020, c'est leur deuxième expérimentation. Et du coup, l'idée, ce serait vraiment d'accueillir un plus grand vaste public. Donc vous êtes vraiment conviés et attendus. Donc en février 2020, on attend vos inscriptions. Ce qui me vient donc du coup à ma deuxième annonce avant que je puisse vous diffuser cette interview, puisque cette semaine sur Alençon, et toujours dans le même thématique de ce que j'étais en train de raconter à l'instant sur les conférences gesticulées, nous aurons donc samedi soir à partir de 21h, non je vous dis des bêtises, samedi 21, excusez-moi, à partir de 20h à l'auditorium d'Alençon, il y aura donc du coup une personne qui se nomme Léla Frégé, qui va réaliser du coup une conférence gesticulée dans le cadre du Forum de l'égalité avec comme thème « Accompagner la résilience, comment se reconstruire ?» Donc du coup, le jeudi 21 novembre à l'auditorium à 20h, le thème c'est « Le Forum de l'égalité, accompagner la résilience, comment se reconstruire ?» et sa conférence gesticulée s'appelle « Les cabanes en couverture polaire, de la honte en silence à la résilience ». À travers cette conférence gesticulée, la comédienne Léla Frégé raconte la résilience, de la honte à la sortie du silence, de la dépression à la guérison. Pourquoi les victimes de viols sont-elles silencieuses sur leur histoire? Quels sont les mécanismes de la honte? Connaissez-vous la sidération psychique? Comment regagne-t-on l'estime de soi? Quel est le lien entre les paillettes et le Mont-Saint-Michel? C'est ce que la conférence vous apprendra, et bien plus encore, l'occasion de réaliser que, quoi qu'on dise, il est possible de parler et d'entendre parler des violences sexuelles. À 20h, l'auditorium du Conservatoire du rayonnement départemental, cours carré de la dentelle à Alençon. L'entrée est libre dans les limites des places disponibles, donc inscrivez-vous également. Par ailleurs, dans ce même forum de l'égalité, le lendemain, donc de 9h à 13h à la Halle aux Toiles, il y aura plusieurs tables rondes et de discussions, donc du coup, sur le thème de « Peut-on guérir d'un traumatisme ?» et le deuxième sur la justice restaurative, une voie vers l'apaisement. Donc voilà, donc on vous êtes conviés donc du coup sur ces temps d'échange, on espère vous y voir nombreux. Nous, à titre personnel, on y sera. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne émission avec l'interview de Noémie sur le thème de l'éducation populaire, sous format d'un entretien exploratoire, donc un interview qui va un petit peu changer de ce qu'on fait habituellement, puisque, pour le coup, on a un vrai protocole de recherche. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.
Je m'appelle Noémie Moutel, j'ai 34 ans, j'ai fait des études... D'abord, j'ai fait des études en Angleterre, après le baccalauréat, je suis partie en Angleterre.
Okay.
J'ai étudié cinéma, philosophie, littérature
okay.
en langue anglaise. Ensuite, je suis allée vivre aux États-Unis pendant 2 ans, de façon plutôt nomade. Mmh. Et j'ai bossé dans l'audiovisuel pendant quelques années. Et j'ai repris des études quand j'avais 26-27 ans. J'ai fait un master à Caen. Mmh. Là, j'étais en études d'anglais et dans le parcours recherche. Et j'ai commencé à travailler sur la contre-culture nord-américaine. Mmh. Au travers des écrits d'un mec qui s'appelle Théodore Rozac. J'ai bossé encore sur un de ses bouquins en M2. Ensuite, j'ai fait un CAPES d'anglais, j'ai fait l'agrégation d'anglais. Okay. Et j'ai commencé une thèse en même temps. Et là, je commence ma 6e année de thèse. Voilà. Les études de master, au début, moi, j'ai juste voulu aller choper un CAPES d'anglais. Je voulais simplement un taf. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la recherche.
Ok.
Voilà.
D'accord. Donc, tu t'es retrouvé un peu en recherche, en fait, par passion vis-à-vis ce que tu faisais de façon générale, quoi.
Oui. Ouais.
Et du coup, comment tu t'es intéressé à l'éducation populaire? Comment c'était venu de façon générale? Je vais rien te répéter tout le temps de façon générale. C'est pas grave.
Pas de problème. Eh ben, je me suis intéressée à l'éduc pop sans savoir ce que c'était au début. En fait, pendant les années où je bossais dans l'audiovisuel, il y avait aussi des gros moments de creux où j'avais bouquiné plein de choses sur... J'avais bouquiné plein de trucs sur la physiologie de la naissance, le traitement des corps des femmes. J'avais bouquiné des trucs qui rentraient pas dans le cursus... universitaire, puisque j'étais pas en train de devenir sage-femme ou quoi. Mais en fait, je m'étais passionnée pour tout ça. Et j'en ai parlé à un mec qui s'appelle Joachim Rebecca, qui était un des coopérateurs du pavé.
Ok.
De façon informelle, je lui dis, bah, moi, je viens d'apprendre, ça fait plein de temps que je bouquine, qu'est-ce que je peux en faire? Et il m'a dit, bah, tu peux en faire une conférence gesticulée. Donc j'ai fait partie de la première formation à la conférence gesticulée qu'a proposé le pavé en 2011.
Ok.
Et c'est dans cet environnement-là que j'ai compris, que j'ai entendu des gens dire éduc pop à tout va. Mmh. Et je savais pas à quoi ça faisait référence. C'est au fur et à mesure que j'ai compris que les centres aérés qu'avait monté ma mère dans le village où j'ai grandi, c'était de l'éduc pop. Mmh. Et puis au fur et à mesure que j'ai compris qu'il y avait de l'éducation populaire mainstream, on peut dire, assez générale, et de l'éducation populaire orientée politiquement. Quand j'ai commencé la formation de conf gesticulée, j'avais même pas regardé les confs de Franck Lepage. Donc je les ai regardés pendant la formation. Enfin, il y a eu un mot entre deux sessions, j'ai regardé et là j'ai compris ce que racontait Franck. Donc j'ai appris l'histoire du. Je sais plus si c'était un ministère ou du secrétariat d'État à l'éducation populaire et j'ai mieux cerné la démarche marxiste, la démarche de politisation des personnes adultes en fait. De se demander comment on continue de s'informer sur le monde quand on est majeur. Donc l'éduc pop, elle est arrivée par la conf gesticulée dans ma vie.
Le tempo, les biens, mon imagination me rappelle comme la musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Les 500 bien affûtés, je suis prêt. La musique fait son entrée dans ma tête et je me laisse guider. Je me retrouve dans un endroit où tout est blanc. Est-ce le paradis? Pourtant une odeur de sang flotte juste au-dessus du chalet ouvert qui guide ma plume et mon esprit dans ces quelques vers pour chaque mot gravé. Une goutte de sueur de ceux qui sont tombés dans ces champs de malheur. Leur vie ne tenait qu'à une chaîne, mais leurs âmes libres planent aujourd'hui dans les plaines. Ils ont passé leur vie entre l'amour et l'amour. Ma couleur de paume le rappelle tous les jours.
temps.
L'île de Corée, à l'origine de ma plume, de mon rythme, résonne de plaintes sinistres qu'on entend dans nos versets. Dans ces compositions exercées, sortent de la bouche d'un sage aux narines percées, qui ramassait dans sa balai des poussières du ciel. Destin bouleversé dans les cales d'un négrier, corde au cou, l'odeur de mort s'est perdue sur la mémoire d'alors. Et chaque coup de grosse caisse blesse dans le cerveau. La caisse claire rappelle ce fouet qui lacère la peau. Le charlet, ses souffles de passivité, chaque mot dans mes pensées pour un esclave assassiné.
L'échantillon sans cesse revient, fait de nous les victimes du quotidien. Combien de gens connaissent déjà leur avenir, travailler dur pour à peine gagner de quoi survivre. Pour que l'esprit s'apaise, il est nourri de liberté fictive. Nous voilà, esclaves sans chaîne, mais ils sont bien loin. Les champs de coton, aujourd'hui, sans contrainte, on trime dans les champs de béton. Le conditionnement est si parfait, tellement accepté que certains attendent qu'on leur dise de penser. Le précieux héritage serait-il à jamais perdu? Est-ce qu'il n'y a que dans ma tête que les champs continuent?
Le tempo, libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo, libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo, libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo, libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
J'ai une certitude, l'évaporation de la libère du joug de la servitude. Et si aujourd'hui beaucoup en font usage, c'est pour briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavage. En vogue dans nos sociétés à l'ouest, rien de nouveau, les clés sont les mots. Sinon pourquoi les nazis auraient-ils fait des autodafés à Toulon? Les livres se vendraient en toute liberté, ouais. Mais nos textes par voie hertzienne prennent le chemin des airs. Nos voix ne seront pas prisonnières, parti pris pour la musique. Cette atmosphère unique casse les lois de l'asservissement psychique.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Le tempo libère mon imagination. Me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton.
Ben, il y a Franck Lepage, il l'explique. Enfin, mon explication, elle va venir un peu de ce que j'ai appris avec lui. C'est. Il parle des cinq grandes étapes de l'éducation populaire, en disant que l'éducation populaire, en premier lieu, c'est l'accès à la connaissance des populations prolétaires au XIXe siècle, pendant le plein essor de l'industrialisation, et des personnes qui sont force de travail, prolétaire, classe ouvrière dans toutes sortes d'entreprises ou d'industries et qui vont chercher de la connaissance pour comprendre leurs conditions d'existence. Et ensuite, il explique qu'au fur et à mesure du XXe siècle, ces démarches-là, qui sont des démarches de politisation et d'auto-formation, sont de moins en moins bien vues par le patronat. Le patronat se rend compte que c'est quand même très gênant et sans doute qu'il va y avoir une volonté politique que l'éducation populaire devienne une pratique de classe moyenne. Et donc on va plutôt parler après d'animation socioculturelle. Donc c'est tout le travail de Franck que d'expliquer comment l'éduque pop politisante devient une éduque pop inoffensive. Mmh. Lui, il fait des blagues avec les cours de yoga ou des trucs comme ça, qui sont des blagues que je partage pas. Mais on peut mieux peut-être comprendre que l'éducation populaire, si elle est vue sans remise en cause du système capitaliste, elle offre des loisirs. Mmh. Alors que ce qui est intéressant, je pense, dans l'éducation populaire, c'est de dire, pour moi en tout cas, c'est comment est-ce que j'offre du temps à moi-même et aux autres pour réfléchir à nos conditions de vie, mmh. pour voir quels sont les endroits où on est victime de différents rapports de domination. Comment est-ce qu'on rend sa situation personnelle politique ? Et comment est-ce qu'on en discute avec d'autres personnes ?
Et du coup, pour toi, ça doit être une démarche qui doit être, entre guillemets, officielle dans le projet d'éducation, enfin, dans le projet d'une structure, par exemple, d'éducation populaire, ou est-ce que ça peut être une démarche, par exemple, officieuse, tu vois ? Je me pose notamment la question, parce que moi, par exemple, je travaille dans un centre social.
Ouais.
Je sais que, par exemple, notre directeur, avec qui j'entends très bien, par ailleurs, revendique le centre social comme étant une structure d'éducation populaire.
Ouais.
Et à juste titre, mais en même temps, si il marque dans ses dossiers de subvention et de financement qu'il y a une visée politique, qui est plutôt même de gauche radicale, on va dire, je pense que, sincèrement, le centre social, il coule l'année prochaine parce qu'on n'a plus de subvention, par exemple.
Mmh.
Et du coup, lui, il parle plutôt, par exemple, de développer du pouvoir d'agir.
Oui.
Est-ce que pour toi, ce serait ça rentre quand même dans une forme d'éducation populaire, ou est-ce qu'on est encore sur une autre forme sociale ?
Bah, je pense que chaque structure et chaque asso, elle va devoir adopter un jargon qui convient. Ça peut être pour sécuriser ses mannes de financement. Mmh. Les histoires un peu légendaires qu'on connaît sur les premiers appels à projets où la SCOP Le Pavé a reçu de l'argent, c'était en étant ouvertement anticapitaliste, mmh. en utilisant ouvertement des outils de critique marxiste sur notamment les rapports de classe. Mmh. Et cette SCOP, elle a décroché les projets pour lesquels elle avait postulé. Donc je pense que c'est une vraie question de à quel point est-ce que c'est visible, mmh. qu'il y a une posture politique, comment est-ce qu'elle est négociée par rapport aux mots, mmh. qui sont employés. Et je pense que même s'il s'agit d'un atelier photo dans un centre socio-culturel, je pense que c'est bien de l'éduc pop qui a lieu.
Mmh.
Après, peut-être qu'on aurait envie que ce qui se passe de liens, d'interactions, de rencontres multiculturelles, transgénérationnelles dans ces espaces-là soit mieux expliqué de façon politique, en disant bah, en fait on vit dans une société néolibérale qui nous individualise et qui nous isole, et on est obligé de créer des espaces où pouvoir se rencontrer, vivre autrement. Mais voilà, je jetterai aucune des pratiques a priori, même les scouts, même les éclaireurs de France, c'est de l'éduc pop.
Je serais plutôt d'accord sur ce point de vue-là aussi. Hein. Pas forcément l'éducation populaire qui, moi, me conviendrait, mais ça en reste une quand même. Quoi.
Ouais.
Je suis assez d'accord. Mais c'est marrant parce que du coup, c'était un peu pour ça qu'on avait envie de se faire ce sujet-là. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de confusion autour du terme d'éducation populaire. Parce que, tu vois, là, par exemple, je commence à mieux saisir le terme, moi, depuis quelques années. Et pourtant, je vis dans ce milieu-là depuis quand même un petit moment, voire même peut-être même depuis mes tout débuts de... que ce soit réflexif ou professionnel, etc.
Ouais.
Et comment tu expliquerais le fait qu'il y ait cette confusion un peu générale sur le terme ? Parce que typiquement, on a quand même presque un ministère qui régit l'éducation populaire qui s'appelle le ministère des Jeunesses et Sports,
ouais.
et qui emploie en plus le terme. Et j'ai, enfin, si je prenais la définition qu'il y a donnée d'éducation populaire, on serait vraiment à l'extrême opposé, entre guillemets. Quoi. Tu l'expliquerais comment un peu tout ça ?
Eh ben... je sais pas, je pense que la question elle est passionnante, parce que pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion, parce qu'il y a très peu d'espaces publics gratuits dans lesquels on discute le terrain politique sur lequel on vit. Moi là, maintenant que je suis prof, j'ai affaire à des étudiants qui ont entre 18 et 21 ans, et je me rends compte que si je leur demande c'est quoi la différence entre la droite et la gauche, c'est pas évident du tout pour eux de formuler une réponse. Et quand on y pense, de la maternelle jusqu'au bac, on n'a pas été invité vraiment. Enfin, moi, j'ai pas fait une filière éco, je fais une filière lettres au bac. Les gens qui ont fait de l'éco ont sans doute un peu plus de billes. Mais de là à apprendre à se positionner politiquement et comprendre que mon vote, en fait, il reflète, par exemple, pour l'exemple du vote, il va refléter l'adhésion à certaines valeurs... ben c'est pas un travail que l'éducation nationale a le temps de mener. Mmh. Du coup, une autre de mes réponses à la question pourquoi la notion d'éducation populaire elle est si vaste et si floue, c'est peut-être parce que les personnes qui s'y investissent, dans l'animation socioculturelle, dans le centre aéré, dans les centres sociaux, dans plein de choses comme ça, elles ont pas beaucoup de temps pour réfléchir à leurs propres pratiques. Elles ont peut-être une formation dans laquelle elles ont pu formuler quelques convictions, quelques idéaux. Mais ensuite, la structure salariale en elle-même, elle oblige à une certaine efficacité, à un certain rendement, et qui fait que la question politique ou politisante, j'imagine qu'elle passe souvent en second plan par rapport aux effectifs à accueillir, aux structures, au budget, aux activités proposées.
Ouais, non, mais c'est...
Et peut-être du coup, troisième axe, la question de la concertation. C'est-à-dire que pour moi, l'éduc-pop que j'aime, c'est celle qui vient remettre en cause tout fonctionnement hiérarchique. Et le monde professionnel, le monde du travail en France métropolitaine, tel que je le vois, il est hiérarchisé partout. Mm-hmm. Donc se pointer avec des idéaux, mais en étant en bas de l'échelle professionnelle, ça facilite pas l'énonciation de rapports de force, de situations de domination. Enfin, je pense aussi qu'il y a encore un autre truc, ça va être la peur de perdre son taf. Mmh. Et donc si la structure en elle-même, elle n'est pas déjà articulée de façon politique, se pointer et vouloir ouvrir des débats, que ce soit féministe, antiraciste, classiste... Il y en a plein. Mmh. Et ben, je pense que c'est pour beaucoup de gens, et moi je l'ai vécu dans des espaces pro, c'est une prise de risque. C'est pour ça que moi je me suis syndiquée, je suis syndiquée à Sud, parce que j'ai remarqué que en fait exprimer une opinion politique dans un cadre professionnel, si c'est une opinion politique qui va sembler radicale, ça on voit aussi sur une discussion sur la radicalité, et ben moi je prends des risques en mon nom propre. Mmh. Alors que si c'est Noémie Moutel qui est chez Sud, bah, il y a Sud. Donc, heureusement, les syndicats ont encore un petit pouvoir d'intimidation.
Mmh. Ouais, puis ça permet de protéger derrière et puis de se sentir sécurisé aussi, quoi.
Ouais. Et, mais aussi d'être étiqueté parce que Sud a un léger pouvoir de protection, mais aussi est vu par les ressources humaines en général comme des personnes bien trop radicales et avec qui on ne va pas coopérer, quoi. Alors qu'un syndicat plus majoritaire va siéger, mais va être plus conventionnel, plus consensuel et peut-être être plus entendu.
Ouais, non, je comprends bien la problématique, quoi. Donc au final, si je suis un peu ton propos, en fait, c'est donc la prise de risque en fait un peu politique qui en fait amène ce flou en fait autour de l'éducation populaire et qui fait que certains en fait font presque du novlangue entre guillemets à devoir en fait tronquer les termes pour pouvoir faire passer ça entre guillemets.
Je pense que la prise de... Ouais, je crois qu'il y a vraiment une prise de risque et que dans le processus d'apprendre à faire une conférence gesticulée, c'est justement se rendre compte à quel point on n'ose pas formuler une parole politique parce qu'on n'y est pas habitué, parce qu'on ne l'a pas beaucoup fait, parce qu'on a une certaine vue de ce que c'est que la politique et elle est médiatique, elle est électorale, elle est... institué. Mmh. Et quand il s'agit d'exprimer une opinion personnelle, on se rend compte que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de craintes qui sont associées avec ça. Comment je vais parler de féminisme et de patriarcat sans généraliser les hommes, sans généraliser les femmes? Comment je vais parler d'une situation de handicap sans être péjorative vis-à-vis des personnes handicapées? Et on se rend compte que c'est dur de trouver les bons mots et qu'à chaque fois, il y a une prise de risque, carrément.
Et on ne pourrait peut-être pas faire confiance à l'intelligence collective dans ce genre de situation. Enfin, là, c'est vrai que c'est une question très utopique de ma part. Et puis bon, de mon expérience, je me rends compte que ça se travaille aussi. Mais est-ce que c'est pas un peu le but aussi de l'éducation populaire, en fait, de faire travailler cette façon de fonctionner en groupe, notamment? En plus, on a plein d'outils maintenant qui émergent par rapport à ça, peut-être que la communication non violente, l'écoute active, etc., qui peuvent justement, en fait, être des rituels d'organisation de groupe, quoi.
À fond.
Je me rends compte que c'était pas une question, c'était une affirmation. Je vais reformuler sous forme de question.
Vas-y. Ouais, vas-y, tu veux reformuler ?
Ouais, non, je pense que t'avais compris la question du coup.
Si, ouais, la question d'intelligence collective est super. Ces remarques sur les moyens du débat en fait. Et personnellement, moi, c'est ce qui est le plus difficile pour moi professionnellement, c'est de me retrouver dans des réunions où le fait de prendre soin des conditions du débat, donc de l'horizontalité, du fait qu'il y a des rapports de domination qui facilitent la prise de parole de certaines personnes vis-à-vis d'autres, le fait de faire des tours de parole pour être sûr que tout le monde soit entendu, le fait d'énoncer la question d'un vote avant de procéder à un vote. Enfin, des choses qu'on a vaguement vues en éducation civique quelque part en cinquième, justement pour le fait qu'on énonce la question d'un vote avant de procéder au vote. Tous ces éléments-là, en fait, sont... Étant donné que ça n'arrange pas un rapport de pouvoir en place qui est celui des classes dominantes sur les classes moyennes et populaires, eh ben c'est très dur de les mettre en place. Là aussi, il va y avoir une prise de risque qui va pas être au niveau du contenu, mais au niveau de la forme. Mmh. Intervenir dans une réunion pour dire « Cette personne, ça fait 20 minutes qu'elle parle, j'aimerais qu'elle se taise », c'est hyper mal vu. Enfin, la personne qui fait ça, elle prend un risque vis-à-vis de ses collègues, si qui plus est, c'est une meuf qui le fait, ou une personne racisée qui le fait. Mmh. Elle est sous le coup de plein de dangers que la société dominante, telle qu'elle est organisée pour l'instant, ne prend pas en compte. Une personne trans aussi qui va devoir prendre des risques. Et donc dans des structures d'éducation populaire radicales, on va dire, ou politiquement explicites, va y avoir une grande vigilance, normalement, portée sur les questions de comment on se concerte. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler? Est-ce que vous... Et en sachant qu'il y a peu de personnes qui se sentent légitimes à exprimer leur point de vue. Donc comment je favorise le fait que toute parole est légitime et que tout le monde a une culture?
Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Tant qu'on brûlera des voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif.
Parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable. Je vous le dis, je suis condamné à l'échec. Parce que le monde qu'ils nous proposent m'indispose. Je le répète, je suis condamné à l'échec. Parce que les études de lettres et de philo ça paye pas. Ils m'ont dit, petit mec, t'es condamné à l'échec. Condamné, faut accepter les lois du marché. C'est marche ou crève quand les diplômes deviennent les flèches de l'archer. Si réussir c'est un salaire, un pavillon sous hypothèque, permettez-moi d'être condamné à l'échec. Ils disent que les jeunes du ghetto veulent leur part du gâteau, incite à se lever tôt. Mais c'est quoi ce veto? Cette injonction à être cool, rentrer dans le moule, enlever sa cagoule, enfiler ses pantoufles, s'asseoir dans son canapé, allumer sa télé, puis mater, lobotomiser leur clip, ça c'est misé sur notre consentement et notre consensus. Quand la révolte appelle à faire de l'oseille, c'est un terminus. On pourra pas nous exhorter d'aduler le MEDEF au canal Saint-Martin. Y'a des anciens cadres SDF, voilà l'envers du décor. Ce système est à refaire, l'humain n'est rien, les trophées ne reviennent qu'au profit. Alors bien sûr, faut se prendre en main, évidemment. Ne rien attendre de ce système qui te considère comme un chien, qui te fait rapporter le bâton sous forme d'un maximum de lucre. S'il est bien docile, le toutou, il aura son sucre. Mais je ne suis ni une carte de visite, ni un CV. Pas de métier valorisant, je suis qu'intérim et CDD. Avant, j'aimais leurs balades, maintenant, elles me narguent. Elles me font constater que je n'ai pas de corde à l'arc. Car je ne sais pas chanter, pas rapper, pas slammer, pas scénariser, pas designer. Moi je passe pas à la télé, laissez-moi être fatigué, être inadapté. Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre. Me soumettre à devenir complice. Me soumettre à devenir servile. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Mais les voitures ne sont que des bibelots de notre consommation qui ne méritent aucun égard dans la révolte de nos chansons. Je ne suis pas déçu en ce système, j'ai jamais espéré pour nos parents tomber dans le panneau. Je ne peux être que navré. Où est mon HH rebelle qui fumait du H? Maintenant le rap prend les allures d'un sermon de DRH. Il nous encourage à faire carrière et gagner des sous. De boire toutes ces conneries fait mal au crâne. Vite faut qu'on dessoule sans déclarer la guerre. Il a vaincu nos rhétoriques. Le capital est dans nos têtes et nous fait l'amour torride. Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter.
Justement, aussi, une population qui ne se serait pas forcément posé la question. Quoi. Mmh. Comment réussir à atteindre ce défi-là, quoi?
Ben. Je pense que la pratique de la conférence gesticulée est censée proposer des pistes pour avancer dans cette direction-là, c'est-à-dire que l'idée d'une conférence gesticulée, c'est de rendre un savoir fouillé, relativement théorique et aussi incarné, accessible au plus grand nombre de personnes. Et justement parce qu'il est incarné, parce que c'est possible de dire « je », parce que il y aura pas de prétention. A priori, il y a pas le besoin de se faire passer pour ou de se faire mousser d'une façon particulière. Normalement, ça rend le propos politique accessible à peu près n'importe qui. Et donc, on peut imaginer que dans le public de cette conférence gesticulée, il y a toutes sortes de personnes qui vont se dire « Waouh, je viens d'apprendre des trucs que j'ai peut-être cru être hors de portée. En fait, j'ai pigé. En plus, ça m'a raconté des choses sur mon quotidien. » Et je vais m'en saisir, et peut-être je vais avoir envie d'aller bouquiner. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une culture livresque, c'est clair. Mais peut-être je vais avoir envie d'aller chercher des chaînes YouTube qui vont me décrire des choses. Il y a toute cette question de l'esprit critique. Et donc, à la question comment on va venir stimuler l'esprit critique de personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles l'utilisent peu. Globalement, pour être honnête, c'est pas une réussite. Enfin, il y a pas de. Peut-être que si les cons gesticulaient, c'était une réussite, on aurait un mouvement révolutionnaire mené par les 350 gesticulants, gesticulantes qui existent aujourd'hui en France. Ce serait une caricature, mais en tout cas, c'est pas ça qui se passe. Les gens qui viennent se former à la con gesticulée, souvent, elles ont déjà un cheminement d'analyse politique personnelle. Pas forcément universitaire, mais sur le groupe qu'on a accompagné avec Lucille Pénaud l'année dernière, il y avait 5 personnes, dont 4 qui avaient bac plus 5.
Ouais.
Voilà, sur le groupe d'avant, il y avait 8 personnes, c'était un peu plus varié, il y en a qui avaient des validations d'acquis, on allait entre encore une fois, je pense, le bac et bac plus 5. Et donc voilà, c'est la conférence gesticulée de Leïla Frégé qui est sur la culture du viol. Elle tourne, là, elle commence à aller dans les lycées. Elle commence à aller dans des espaces où, pour moi, ce serait une des directions à prendre. Ce que j'ai pas beaucoup fait avec ma conférence, mais qui était un objectif pour moi. Donc pour moi, la question de l'éduc-pop, elle passe vachement par cet outil de con gesticulé parce qu'il est concordant avec qui je suis, avec comment je travaille. Et la question d'aller toucher des nouveaux publics, moi, ça me cause de le faire un peu sous forme spectaculaire, de prise de parole en public. Et je connais moins les autres pratiques.
Ok. Ouais. je t'avoue que là, à titre perso, moi, ça me parle aussi beaucoup. C'est aussi pour ça que je me suis tourné vers aussi cette façon de faire. Et puis... Je m'en suis notamment rendu compte cette année, bon là je suis un petit off par rapport à l'entretien, mais là dans le cadre du boulot on a commencé à faire des mini-scénettes de théâtre forum en fait avec des ados sur la question du harcèlement.
Ouais.
Et je trouve ça fonctionne super bien parce que eux ils se sentent en fait d'une part le côté spectacle, ça attire de façon générale et puis ça permet de rendre un savoir qui, si on venait le présenter de façon universitaire, justement académique, serait terriblement chiant pour eux, pour le dire grossièrement.
Ouais.
Et en fait, quand tu es sous cette forme-là, ils captent beaucoup plus facilement. Et après, quand tu leur donnes en plus la parole, la possibilité de pouvoir jouer, ils te donnent, ils te sortent des choses. Je trouve ça génial, quoi.
Ouais, et on pourrait même se dire que, étant donné la révolution numérique et le déploiement de YouTube et de trucs comme ça, de cette sorte de narcissisme que crée l'outil numérique, mais qui est aussi une façon de se regarder, de se mettre en scène. Peut-être que les générations qui viennent sont de plus en plus réactives et joueuses avec le fait d'être vues. Et puis, pour les personnes qui vont être peut-être plus introverties ou moins à l'aise avec le fait de se mettre debout, le fait de pouvoir regarder quelque chose qui se met en place, ouais, au niveau cognitif, je pense que ça... Et au niveau émotionnel, ce qui est génial pour moi dans la combe gesticulée, en particulier, c'est de ne pas faire l'économie des émotions. Et donc, quand on... J'imagine que quand on fait une scénette de théâtre forum et qu'on n'est pas comédien, comédienne pro, il y a un truc où l'émotion, elle est un peu brute, de se retrouver victime ou bourreau, de se retrouver... de pouvoir interférer dans une situation... Et ça, c'est un élément pour moi très important dans l'éduc pop, c'est que l'émotion a sa place, les émotions ont de la place, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est complètement intéressant. Je me souviens que j'avais rencontré des filles et des garçons, justement, enfin des lycéens et des lycéennes, qui justement m'expliquaient que ce qu'ils avaient trouvé intéressant, c'est aussi pouvoir s'exprimer. Ouais. Et vraiment pas s'exprimer sur le côté théorique, mais aussi sur le côté émotionnel.
Ouais.
Et parce que, en fait, un savoir, c'est pas que des connaissances, mais aussi l'émotion. Il faut que j'arrête d'affirmer des choses, je suis là pour poser des questions.
Ça.
J'arrive sur les toutes dernières questions par rapport à l'entretien exploratoire, c'est plutôt sur la notion, le mot éducation.
Ouais.
Et parce que justement, c'est aussi une des questions qu'on se posait avec Simon quand on a commencé à préparer les entretiens.
Mm-hmm.
C'est, on se rend compte au final qu'il y a aussi beaucoup de un autre mouvement qui commence à se développer autour de l'éducation populaire, qui est très lié aux éducations, aux pédagogies nouvelles, comme on dit.
Ouais.
Donc tout ce qui va être éducation coopérative, Montessori, les écoles Montessori qui fleurissent un peu aussi. Est-ce qu'on est toujours dans le registre de l'éducation populaire? Est-ce que ces pratiques de pédagogie nouvelle s'incorporent dedans ou pas? Est-ce qu'il y a un lien? Parce que...
Ouais.
Juste pour compléter la question, ça va permettre de donner des éléments pour répondre. C'est parce que du coup, on a rencontré deux personnes. Il y en avait une qui, par exemple, dissociait vraiment la démarche, par exemple, Montessori d'éducation populaire.
Mm-hmm.
Et l'autre personne qui, à l'inverse, l'incorporait complètement dedans.
Mm-hmm.
Alors, la question que je me demandais, c'était justement, est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'au final, on est quand même sur des éducations quand même critiques et qui se font en marge de l'école en vue de faire une transformation sociale.
Mm-hmm.
Mais pour autant, il y en a certains qui le font juste par intérêt pédagogique et sans avoir une démarche politique derrière. Donc, on se posait la question.
Ouais, carrément. Bah, ça marche avec l'exemple là, que j'avais à l'esprit. Par rapport aux émotions, moi, je fais des cours d'anglais avec... je m'occupe d'un TD qui s'appelle Compréhension-Expression. Et il y avait une thématique qui doit être « The self and others », donc « soi et les autres ». Et je suis partie du travail de Peggy McIntosh, qui est une féministe blanche états-unienne, et qui, pour essayer de comprendre pourquoi si peu d'hommes prenaient conscience du système de domination que crée le patriarcat, le système patriarcal, elle s'est mise... Pour elle, c'était dur de se mettre à la place d'un mec. Par contre, en tant que femme blanche, elle a essayé de voir ce qu'elle avait comme avantage par rapport à une personne racisée, et elle a fait une liste de 50 avantages. Je peux me présenter au commissariat et ne pas penser que c'est ma couleur de peau qui va faire qu'on va me prendre pour la coupable. Je peux demander mon renouvellement de papier sans avoir peur qu'on croie que je suis là illégalement. Je peux, toutes ces choses-là, je peux ouvrir un compte en banque sans preuve, enfin, pour montrer les privilèges. Et on a étudié ça, et en fait, il y a une étudiante qui s'est mise à pleurer parce qu'elle disait qu'elle avait... Et ça m'émeut encore, parce qu'elle disait qu'elle avait eu la visite de deux potes, elle avait grandi en Seine-Saint-Denis, deux potes racisés, ou du moins pas blancs, qui viennent lui rendre visite, et qui se font emmerder dans les rues de Caen. Et elle disait, mais ça... En fait, elle découvrait ce que c'était que le privilège blanc. Moi, je suis là pour lui transmettre, parce que pour moi, c'est ça ma mission pédagogique, c'est de faire attention que j'oublie personne quand je fais de l'éducation. Même si j'ai forcément perdu, j'ai forcément oublié des gens. Mais moi, dans mon effort, pour moi, c'est de l'éducation. Et là, je suis dans un cadre institutionnel. Mais si j'étais... pour moi, c'est pareil, en fait. Mmh. Que je fasse de l'éduc pop ou que je sois prof de façon institutionnelle dans une institution. Mmh. mon métier, c'est quand même bien de transmettre certains rapports qui régissent la société dans laquelle on vit. Et après, j'ai un devoir de neutralité que je trouve très dur. Mais... et du coup, le fait qu'elle, elle pleure et qu'elle soit émue, j'étais dans un espace où ça n'a pas de place. Je suis pas censée m'occuper d'une étudiante qui pleure. Je peux quasiment pas l'accompagner. Je peux pas prendre en charge sa peine. Je peux juste objectiver en disant bah oui, je suis désolée. C'est vrai que c'est un texte qui remue. Et donc la question de la prise de conscience. Quand elle arrive dans la sphère institutionnelle ou qu'elle se passe à côté de la sphère institutionnelle, dans tous les cas, ça crée quelque chose. S'il y a des personnes qui sont enseignants, enseignantes et qui ne cherchent pas à étendre, à augmenter la conscience, en quelque sorte, des personnes, sa propre et des personnes avec qui elle travaille, ben, je ne me reconnais pas trop dans cette définition-là de l'éducation. Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon chemin maintenant. Quand j'enseigne, je dois expliquer des choses qui expliquent qu'il y a une norme et des marges. Et que les personnes qui sont dans les marges ne sont pas favorisées par la norme. Je ne peux pas me défaire de cette lecture-là. Et je pense que quand on fait des pédagogies alternatives, c'est parce qu'on a envie d'aller encore plus loin dans un travail marginal. Et je pourrais... Mais c'est aussi, je trouve, une très bonne question parce que quand je pense aux écoles, les écoles de la démocratie, les écoles démocratiques, leur tentative ou leur expérimentation, c'est que les personnes adultes n'influencent absolument pas ce que les personnes plus jeunes vont être en train de construire comme déroulé de journée, comme besoin alimentaire, enfin, de les laisser faire. Et donc, à ce titre-là, et je crois même pas que ces personnes, les adultes encadrants, se considèrent pas comme des personnes qui encadrent, ni comme des personnes qui transmettent, mais comme des personnes disponibles en cas de demande. Et ça, c'est des pistes que j'ai pas encore vraiment explorées. Mais je pense que, les pédagogies nouvelles, elles ont un rapport avec l'éduc-pop radical.
Ok. Et puis, toute dernière question d'entretien exploratoire. Est-ce que là, sur un petit, vraiment de façon la plus succincte possible, est-ce que tu serais capable de définir l'éducation populaire avec ta vision de l'éducation populaire? Et évidemment, comme tout entretien qui se vaut, tu as évidemment le droit à rajouter tout ce que tu veux à la fin.
Ok. Alors, définir l'éducation populaire, succinctement. Pour moi, l'éduc-pop, ce sont des pratiques qui sont destinées à des personnes ayant le droit de vote, des personnes majeures, ou des personnes adultes, ou des personnes à les pubertés, quoi. Comment dire ? Pour moi, c'est destiné à des personnes qui... Ah putain, c'est trop chaud, attends. C'est trop dur parce qu'en fait, même avec des mômes, tu peux faire de l'éduc-pop. Du coup, pourquoi je pensais à la classe d'âge ? Parce que pour moi, l'éduc-pop, c'est nécessairement un moyen de politisation. Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour se politiser. On peut expliquer à des enfants de 6 ans comment les choses fonctionnent. Enfin, du moins, je suis pas non plus... Je travaille sur mon âgisme, alors je suis pas très douée. Mais... pour moi, l'éduc-pop, c'est un processus de politisation horizontal, participatif et inclusif.
Ok. Et est-ce que tu avais besoin d'envie de dire des petits mots sur la fin ? Est-ce que tu as envie de nous parler quelque chose ? Ça peut être de la pluie comme du beau temps ? Ou rajouter quelque chose qui ne serait pas venu dans l'entretien de façon générale ?
Alors attends. Oui. Eh bien, c'est que je suis féministe et que ça, c'est un mot que j'ai appris à utiliser et à m'approprier grâce à l'éduc-pop et grâce au travail qui s'est fait au pavé et au-delà, et puis grâce à moi et à ce que j'ai pris de ce qu'on m'a proposé. Et pour moi, une question là qui me semble passionnante pour les années à venir, c'est qu'au sein même de l'éduc-pop, il y a des tentatives, des volontés de regarder comment est-ce que les rapports genrés, les dynamiques de genre influencent même le processus de politisation. Et pour moi, ça, c'est une question hyper intéressante. C'est que moi, je travaille plus spécifiquement sur le rapport à l'écologie et à la nature. Je travaille sur l'écoféminisme et donc sur comment le point de vue patriarcal et capitaliste influence le rapport qu'on va avoir au monde non humain. Et de la même manière, dans l'éduc-pop, il y a à se demander comment est-ce que le patriarcat et le capitalisme influencent l'accès à la politisation des personnes qui sont pas des mecs blancs de plus de 50 ans. Mmh. Et comment est-ce qu'on arrive à identifier les mécanismes de ce type de discours pour pouvoir mieux légitimer la parole des personnes qui n'ont pas eu accès à la parole politique dominante, qui n'y ont jamais eu accès, en fait. Et voilà, ça m'intéresse aussi beaucoup.
Ok. Ouais, je trouve que c'est une très belle réponse d'ouverture, en tout cas.
Come on, 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 come on voix. Colonisation trop subtile pour vraiment le peuple voir. Divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides. Tant pour prendre de la valeur, ça expulse des familles, des vieux, des enfants. Entre cartes CRS et caméras de surveillance, quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles. Apartheid social et culturel, aujourd'hui les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Virer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place. Nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères. Depuis tes droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de gêne sous le préau écrasé. Mec qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient.
Mesure européenne, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humiliés par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, goût et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient.
Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies. On ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter la pluie, qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
Voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient et parce que nos vies nous appartiennent.
<t'en>